Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et voici les enjeux internationaux. En Ukraine, plusieurs députés se sont récemment plaints de voir leurs déplacements à l'étranger contrôlés, voire interdits par les services de sécurité ukrainiens. Parmi eux, en chef de file, l'ancien président et désormais député de l'opposition, Porochenko, qui s'était vu interdire un voyage en Hongrie au mois de décembre. De plus en plus de critiques, certains parlementaires dénoncent une dérive du pouvoir de Volodymyr Zelensky 2 ans après le début de l'opération spéciale russe. Que reste-t-il de l'Union sacrée? Qui sont les voix dissidentes dans le pays? Bonjour Clara Marchaud.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondante en Ukraine pour plusieurs journaux, dont l'Express, le Figaro, Mediapart. Vous venez de publier un si long mois de février, Histoire intime de la guerre en Ukraine, c'est aux éditions Plein jour. Depuis l'instauration de la loi martiale, les députés ont besoin d'autorisation pour quitter le pays. Comment expliquer cette règle?
En fait, au début, c'était les hommes, comme tous les hommes en fait de 18 à 60 ans, qui sont mobilisables et qui ne peuvent pas sortir du pays sans autorisation. Et puis, en 2023, il y a eu un scandale avec un député qui est parti voir des électeurs en Thaïlande, donc il est parti en vacances, ce qui a été très mal vu dans la population. Et le gouvernement et le parlement ont mis en place des règles beaucoup plus strictes pour minimiser les sorties ou en tout cas avoir des autorisations de sortie du territoire pour les députés. Ces règles sont devenues de plus en plus strictes après les nouveaux scandales, de nouveaux députés qui partaient donc en vacances ou voir leur famille. Et c'est quelque chose qui a été très mal vu dans la population. Et en fait, ça a été utilisé. Les députés d'opposition en fait accusent le gouvernement d'utiliser ces règles pour justement donner des autorisations seulement aux députés loyaux à Zelensky et donc au gouvernement en place.
Est-ce qu'ils ont raison ?
Effectivement, on se rend compte que la plupart des autorisations de sortie dans les journalistes qui ont enquêté là-dessus, la plupart des autorisations de sortie sont données plus souvent ou en tout cas plus rapidement aux députés qui votent, même d'opposition, mais qui votent en tout cas les lois du pouvoir.
Alors c'est compliqué parce que on a la sensation donc que l'Ukraine défend la démocratie, mais ce pays est-il vraiment aujourd'hui démocratique? C'est la loi martiale qui s'applique, il y a des législations d'exception et c'est difficile donc de distinguer ce qui relève du contexte de guerre et ce qui relèverait d'une manière de museler l'opposition, Clara Marchaud.
Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué quand on est un pays, une démocratie, de garder en fait cette démocratie en pleine guerre totale. C'est vrai que le Parlement continue à fonctionner. On l'a vu, les parlementaires continuent à fonctionner. Il continue à y avoir des débats au sein du Parlement. Disons que la guerre, au début de l'invasion, la guerre prenait tout l'espace politique, médiatique. C'était le seul sujet. Et donc, en fait, il y avait aussi une union sacrée, même au Parlement, qui était assez importante. Le Parlement était dans ce que les députés appelaient le turbo-régime, donc c'est-à-dire qu'ils votaient en masse tous les projets de loi ou les lois qui étaient nécessaires pour faire continuer l'État, en fait, pour la continuité de l'État. Disons qu'en 2023, ça a été après déjà 1 an de guerre et aujourd'hui après 3 ans de guerre totale, les débats sont un peu plus nombreux, il y a un peu plus en fait il y a un peu plus de débats politiques, tout le monde n'est pas d'accord, disons, aujourd'hui.
Alors, sur quoi, justement, y a-t-il divergence lorsque l'on évoque donc la politique de Volodymyr Zelensky? Quelles sont les discussions les plus importantes, Clara Marchaud?
C'est aussi la guerre. C'est aussi le sujet le plus important. Aujourd'hui, il y a une loi qui est encore discutée au Parlement, une loi sur la réforme de la mobilisation, qui est vraiment le sujet majeur aujourd'hui en Ukraine, à la fois pour les politiques, mais aussi pour les gens, en fait. Le gouvernement et l'armée aimeraient réformer ces règles pour justement encadrer un peu plus la mobilisation des hommes. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est donc les hommes de 18 à 60 ans qui sont mobilisables, et notamment de 27 à 60 ans. Si vous avez 3 enfants, par exemple, vous n'êtes pas mobilisable, si vous êtes handicapé aussi. Et donc, le Parlement et le gouvernement aimeraient changer ces règles-là pour justement mobiliser plus d'hommes, jusqu'à 500 000 nouveaux mobilisés, nouvelles recrues pour cette année.
Vous avez pu interroger des députés de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils réclament, Clara Marchaud ?
La question des sorties à l'étranger est très importante. C'est ce que les députés d'opposition me rapporte à chaque fois, en fait, à chaque fois que j'en interroge, même il y a un an, c'était déjà une question. Après, en fait, les députés d'opposition arrivent quand même à avoir un débat au Parlement. On se rend compte, par exemple, avec cette loi sur la mobilisation, qui a eu 4000 amendements. Donc c'est ce que disaient des analystes, c'est que c'est presque de l'obstruction parlementaire pour justement forcer le gouvernement à avoir un débat qui est public au Parlement. Les parlementaires aimeraient aussi avoir plus de rencontres, parce que pour des raisons de sécurité, ils faisaient moins de sessions parlementaires. La presse aussi, qui avant pouvait venir aux sessions plénières, ne peut plus aujourd'hui venir sur place pour, encore une fois, des questions de sécurité, en fait, parce qu'il peut toujours y avoir des bombardements sur le Parlement, malheureusement.
Est-ce qu'il y a également des voix qui sont des voix qui voudraient, par exemple, trouver un cessez-le-feu avec Moscou ?
Non, c'est pas quelque chose, et depuis le début de l'invasion, c'est quelque chose que je demande assez régulièrement à la fois aux politiques et aux gens, en fait. C'est vraiment la discussion d'un cessez-le-feu, en fait, aujourd'hui est vue en Ukraine comme quelque chose qui ne ferait que prolonger la guerre. Et en fait, disons que les Ukrainiens ne croient plus dans la parole de Moscou.
Et lorsque l'Ukraine est envisagée du point de vue de son système politique, on évoque le poids des oligarques. Zelensky lui-même est considéré comme étant le candidat de l'un des oligarques. Je crois qu'il y en a 9
Kolomoïski,
qui sont considérés comme étant les grands, ceux qui tirent les ficelles de la politique ukrainienne. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Les oligarques, en fait, ont énormément perdu de pouvoir pendant l'invasion à grande échelle, notamment ceux qui avaient, en fait, qu'est-ce que c'est un oligarque ? C'est une personnalité du milieu des affaires. En général, en fait, ce sont des hommes d'affaires qui se sont énormément enrichis dans les années 90 après la chute de l'URSS, qui ont récupéré le contrôle. Ça peut être d'usines sidérurgiques. Ça peut être en tout cas dans l'industrie de complexes, et qui ont également une présence dans les médias. Aujourd'hui, les médias sont beaucoup moins, sont plus contrôlés, et en plus de ça, notamment la télévision, et en plus de ça, c'est par exemple, si on prend le plus grand, le plus important oligarque, Akhmetov, qui était Rinat Akhmetov, qui était un oligarque de Mariupol et de Donetsk, il a perdu la moitié de sa fortune, qui était l'homme le plus riche d'Ukraine, qui a perdu la moitié de sa fortune pendant l'invasion. Donc les oligarques se sont vraiment rangés derrière le pouvoir, tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas survivre si jamais le pays était occupé par la Russie.
Est-ce que ça veut dire que le niveau de corruption en Ukraine a diminué ?
C'est assez compliqué de savoir si le niveau de corruption a diminué ou augmenté. Ce qui est sûr, c'est que la tolérance à la corruption est de plus en plus basse, et que toutes les réformes, en fait, anticorruption qui ont été faites depuis 2014, donc par exemple avoir un parquet spécifique, avoir un organisme d'enquête spécifique, ont fonctionné dans le sens où il y a cette justice parallèle spécialisée là-dessus sur la corruption. On l'a vu dans la justice où le président de la Cour suprême, par exemple, a été écarté pour ces raisons-là. Donc il y a toujours une lutte contre la corruption.
En conclusion, Clara Marchaud, est-ce que Volodymyr Zelensky va devoir remettre son mandat en jeu ? Est-ce qu'il y a des élections prévues en Ukraine ?
Alors les élections sont pas du tout devaient justement être prévues en mars et en avril 2024 pour les présidentielles, mais aujourd'hui c'est totalement impossible avec un quart de la population qui est déplacée et 17% du territoire qui est occupé.
Donc, ça n'est pas à l'ordre du jour. On peut s'intéresser à l'Ukraine au travers de vos ouvrages, Clara Marchaud, notamment Un si long mois de février, histoire intime de la guerre en Ukraine. C'est un livre que vous avez publié aux éditions Plein Jour et puis on vous suit dans différents supports, L'Express, Le Figaro, Mediapart. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans quelques instants, eh bien, on va parler science avec Alexandra Delbo et on va s'intéresser à la réionisation de l'univers.